Là-haut, première partie, chapitre 2. Julien ne put s'endormir. Au moment où il allait céder peut-être à la fatigue de sa course, des bruits dans les chambres voisines, séparées par de minces cloisons de bois, firent la maison sonore et l'arrachèrent à sa torpeur. Des voix chuchotaient, des bottines sonnaient sur le vestibule, des lits craquaient sous le poids des corps, des pieds pesants s'abattirent sur chacune des marches de l'escalier. Le sommeil s'enfuit. Brûlant de sa fièvre habituelle, Sterny se retourna sur sa couche, les yeux grands ouverts dans l'obscurité. Les souvenirs et les images qui le hantaient depuis la catastrophe se bousculant dans son cerveau malade. Si, pendant un instant, il perdait à demi-conscience, c'était alors des visions de rochers, de torrents, de précipices qui multipliaient les distances parcourues et les horizons surplombés au cours de son récent voyage. Un affolement de montagnes superposées, méchantes, dangereuses, de paysages de désolation s'harmonisant avec son désespoir. Il revit ainsi l'hospice de la Grimsel, dressé dans la mélancolie d'un paysage vide, au bord d'une eau dormante. Puis, plus haut, près du col, dans une vasque de pierre, enveloppée du silence des solitudes, immobile sous le vent comme du plomb fondu et bleuté des reflets de la glace de ses profondeurs, un autre lac, que le cocher désignait d'un geste et nommait « le lac des morts ». Puis, encore, de l'autre côté de la sombre montagne, dans la vallée, les grandes croix de bois d'Ulrichen, debout au bord de la route, évoquant les souvenirs de meurtres et d'égorgements de deux terribles batailles. Puis à Brigg, un vaste palais délabré, comme si l'incendie et la dévastation se fussent promenés par ses vestibules, ses appartements, ses balcons. Puis, gravée sur la porte d'une autre antique demeure, cette devise, rappelant quelque lointaine histoire d'amour et de mort que personne ne savait plus. Corpora morte cadunt, corda ligata manent. Julien l'avait inscrite dans sa mémoire, non sans s'attendrir un peu sur les jeunes époux que la mort sépare, sans sourire de sa signification naïve. Mais voici que dans cette nuit lente où son esprit travaillait vite, la simple devise prit soudain un sens différent et terrible. Les âmes restent unies. Il frémit en traduisant ces mots, comme s'il trouvait tout à coup la clé du redoutable problème insoluble. Les âmes restent unies. Ainsi, la sienne restait rivée à cette autre âme, partie avant l'heure, sous la chasse des balles, dans l'effroi du péril foudroyant remplaçant le plaisir attendu. Cette âme étrangère qui jamais ne s'était absorbée en lui, à cette âme que les hasards de la vie facile avaient faite sienne sans qu'il l'aimât. La tête traversée par cette affreuse idée, il se dressa, épouvanté, presque hagard. Est-ce que jamais il ne se délivrerait de cette âme irritée qui le hantait, qui buvait son sang, qui le traînait à la mort? Tu m'avais prise, tu me garderas. Ah, quelle injustice, quelle cruauté, quelle folie! Puis d'autres images effacèrent l'inscription fatale. Les antiques remparts de Sion, ces châteaux en ruine évoquant encore des souvenirs oubliés de guerre et de sang. Puis le dôme neigeux du Combin, dressé dans sa fière solitude, comme pour garder de loin la toute petite garde de Serviese. La silhouette de Rarogne, montant en gesticulant dans son char, le village, les figures des montagnards assis devant l'échoppe du cordonnier, brun dans le crépuscule. À la fin, ces images pâlirent, se brouillèrent, et Julien s'endormit un moment. Pas longtemps, certes, car avant l'aube, le vacarme recommença. Les alpinistes matineux traînèrent par le vestibule leurs gros souliers ferrés. Des sons de cornemuse, à la fois plaintifs et perçants, retentirent sur la place, suivi bientôt d'un brouhaha de piétinements et de clochettes. Julien entr'ouvrit sa fenêtre. C'était le troupeau des chèvres qui se rassemblait, joyeuses et bêlantes. À peine était-elle partie que la cloche s'ébranla pour l'Angélus. Puis ce furent d'autres bruits encore, des bruits incessants, d'une clarté désolante, des voix, des rires, des coups de battoir ou de marteau qui vibraient dans l'air sec, comme s'ils eussent été frappés là, tout près du lit. Impatienté, Sterny s'habilla nerveusement, plus bruyamment que de raison, dans la malicieuse intention de gêner à son tour ses voisins, comme il venait d'être gêné par d'autres, et de troubler le sommeil de ces inconnus qui dormaient à point fermé derrière les minces cloisons. Il réussit. On s'agita dans la pièce à côté, où cependant on avait résisté au son de la cornemuse et de l'Angélus, et il en eut quelques regrets, lorsqu'en sortant de sa chambre, il aperçut devant la porte la plus proche une paire de fines bottines, très élégantes, toutes petites, qui certainement ne pouvaient chausser aucune des personnes entrevues la veille. En hâte, il avala une tasse de café au lait et s'en fut erré par les pentes voisines, humides de rosée, dans la fraîcheur délicieuse du matin. L'ombre de la nuit traînait sur les flancs de la Matz, de l'autre côté de la Tause, dont le passage déchire la vallée, tandis que les gracieux sommets de la Pernelle et de la Dent de Mannery se teintaient à peine de lueurs d'or pâle. À l'horizon, montant du vaste trou béant de la plaine invisible, le soleil irradiait les vapeurs laiteuses qu'il allait bientôt dissiper. Les plans éloignés mêlaient les forêts noires, les hauts précipices, les pentes gazonnées, tandis que plus près, les petits champs avares autour des chalets garnissaient de leur verdure entêtée les grandes vagues des rochers. Bientôt des groupes de montagnards passèrent, endimanchés, leur missel à la main. Les hommes portant presque tous des vêtements de laine brune et des chapeaux noirs à large bord, tandis que les femmes, plus fidèles aux anciennes coutumes, conservaient le vieux chapeau valaisan, le chapeau de paille entouré d'un épais ruban noir à plis serrés. Ils venaient de loin, de tous les jeurs, de tous les mazots, de tous les hameaux disséminés par la vallée, pour répondre à l'appel de la cloche, qui carillonnait d'étranges variations sur l'air du roi d'Agobert. Julien se plut à observer leurs graves allures, leurs mouvements lents et lourds, le regard curieux dont il le suivait au passage. Il marcha longtemps, grimpa les petits sentiers, par où, la semaine, descendent les voyages, s'égara dans un bois de mélèze, aboutit au village des Traversies, tout en longueur, qui aligne ses chalets au bord d'une route creusée dans le roc. Et il ne rentra que pour se mettre à table, le repas étant commencé. La salle à manger du Chamois ne ressemble en rien à celle des grands hôtels des stations à la mode. Deux poutres au milieu, restes d'une primitive architecture, soutiennent un plafond bas où se croisent deux chevilières enduites de miel pour attirer les mouches. Le papier des murailles reproduit à l'infini la même scène de chasse, un cerf forcé par des chiens et des piqueurs sonnant du cor. Sur ce décor se détachent, alternant avec quatre têtes de chamois, quatre gauches images coloriées représentant l'histoire de Guillaume Tell, le héros national. La toque à plumes sur l'oreille, son arbalète sur l'épaule et son fils à la main, passe dédaigneusement devant le chapeau de Gessler, humiliant symbole de la tyrannie. Puis, sous le regard ironique du bailli autrichien, il vise la pomme placée sur la tête de son enfant. Ensuite, il repousse du pied, dans le lac irrité, la barque de son persécuteur. Enfin, caché dans la forêt, au bord d'un chemin creux, il perce de sa dernière flèche le cœur du tyran. Un portrait du général Dufour, à cheval, étendant son chapeau gancé dans un geste de paix. Le geste qui convient à ce héros bienveillant de la dernière guerre civile. fait pendant à un autre portrait, plus modeste, celui de Charles Guay, membre du Conseil fédéral, qui depuis plusieurs années était un des fidèles de Valanche. De gros bouquets de rhododendrons, dans des vases bleus, décorent les deux tables parallèles autour desquelles, cette année-là, se rangeait une cinquantaine de convives. C'était pour la plupart des Vévesans, des Lausannois, des Genevois, dont plusieurs fréquentaient Valanche depuis longtemps. Telle la vieille Madame Sauge, sa bonne figure ridée épanouie sous son bonnet. De fidèles souvenirs la ramenaient chaque printemps, plus cassée, plus lente, mais rajeunie dès qu'elle voyait pointer le sommet du clocher. Robuste encore, malgré ses 76 ans, elle montait à pied de Serviaise et fournissait 2 ou 3 fois dans la saison ses 4 heures de grimper. Quelques 6 ans auparavant, elle avait amené Firmin Volant, qui, depuis, revenait aussi chaque année. Lyonnais d'origine, poussé en Suisse par les hasards d'une jeunesse accidentée et devenu professeur au collège de Vevey, dont les élèves l'adoraient, président à plusieurs reprises de la section des Diablerets du club alpin, collaborateur estimé de l'Écho des Alpes. Volant était un passionné de la montagne. Il l'aimait pour elle-même, avec des ardeurs presque maladives, en amant, en poète, souffrant d'être éloigné d'elle. Toujours prêt à risquer sa vie pour une cime inconnue. Aussi, quelques-unes de ses « premières » étaient célèbres, et les guides du pays ne dédaignaient point ses conseils. Après lui, le plus populaire des habitués de Valanche était Jacques Plantot. Effacé, mystérieux, il ne parlait guère aux autres touristes, jamais aux étrangers, et ne fréquentait que les gens du pays. Chaque jour, il filait avec un guide, des cordes, son piolet, pour des courses très difficiles, qu'il ne racontait pas. Arrivé sans qu'on s'en aperçût, il disparaissait sans rien dire. On le connaissait depuis longtemps, et l'on ne savait de lui que son nom. Plus loquace, juste Penet. Jeune avocat lausannois, fort élégant dans son costume gris clair, avec ses knickerbockers et son léger chapeau de feutre mou, se préparait toujours pour des ascensions formidables, longuement étudiées avec les guides. Mais il s'en tenait au projet, et passait son temps à bavarder sur la place avec les étrangers ou les gros bonnets du village. De même âge que lui, Sergine, russe d'origine, médecin à Neuchâtel, petit, myope, timide, cherchait depuis 3 ans un terrain pour construire un chalet. Les prétentions des propriétaires l'empêchaient de réaliser ses plans, dont il s'occupait sans cesse, comme s'ils eussent été sur le point d'aboutir. 2 vieilles filles d'Yverdon, sèches et piétistes, mesdemoiselles Marthe Lechêne et Marie Baudoire, la première boitant un peu, la seconde tachée d'une légère envie au visage, arrivait d'habitude dès les premiers jours de juin. Inséparable, elle courait sans cesse le pays et rapportait des fleurs pour offrir aux podagres ou pour décorer les tables. Car elles étaient bienveillantes, bien que leur bonté fût un peu douceâtre et surtout commandée par leur grande envie des joies éternelles. Volontiers, elles attiraient les petites filles du village pour leur offrir des traités de propagande protestante, ce qui les faisait mal voir de la population. Excepté Volant, ces divers personnages se trouvaient déjà réunis. Ils formaient comme un groupe central, autour duquel se mouvaient des figures passagères qui changeaient chaque été. Parmi celles-ci, il y avait entre autres, cette année-là, la femme d'un avocat genevois, Madame Vallée, avec sa nièce Madeleine et son fils Jules. 3 personnes dont on aurait pu s'empêcher de remarquer les allures méfiantes, inquiètes et défensives, qui demeuraient insociables et semblaient absorbées par des soucis ou des projets despotiques. Pour se tenir en garde contre ses voisins, comme elle faisait trop visiblement, Madame Vallée avait d'excellentes raisons. Depuis plusieurs années, elle détenait la garde de sa nièce, Madeleine. Or, cette tutelle représentait des dessins extrêmement compliqués, qui exigeait beaucoup de diplomatie et que l'intervention du moindre hasard pouvait déranger. Jamais frère n'avait eu chance plus inégale que les deux frères Vallée. Tandis que le cadet, Frédéric, celui sur lequel se portaient autrefois les espérances de la famille, poursuivait à Genève une carrière médiocre d'avocat peu recherchée, l'aîné, Oscar, faisait à Lyon, dans le commerce, une rapide et brillante fortune, en même temps qu'un heureux mariage lui donnait ce bonheur de vivre auprès d'une femme intelligente, douce et bonne, d'une de ses compagnes dont l'âme est une source inépuisable de réconfortante tendresse. Entre ces deux êtres affectueux, Madeleine eut une de ces enfances ensoleillées qui prédestinent à savourer la joie de vivre, mais aussi à frémir plus douloureusement au contact de la peine. Installée au foyer d'Oscar Vallée, le bonheur ne trouva aucune place à celui de son frère. Gâtée par ses parents, puis flattée par ses camarades d'études qui voyaient en lui un futur grand homme, Frédéric fut ce qu'on appelle un fruit sec. De lourdes maladresses au commencement de sa carrière suffirent à la compromettre. Le tact et le talent lui manquèrent pour les réparer. Son mariage acheva de le perdre. D'éducation inférieure, sortie de bas, épousée parce qu'elle voulut l'être, Madame Frédéric Vallée, quand elle eut perdu sa fraîcheur, ne fut plus qu'une petite femme sèche, âpre, revêche, despotique, qui ne pardonna jamais à son mari d'avoir manqué la fortune. À ces déceptions s'ajoutèrent des chagrins plus réels. Elle perdit 3 enfants en bas âge. Jules lui-même ne résista aux maladies de ses premières années que grâce au miracle qu'accomplit au jour le jour l'affection presque désespérée de sa mère. Une affection d'ailleurs sauvage, jalouse, cruelle, sans douceur, sans tendresse, un attachement de louve à son louveteau. Il fut un enfant gâté, en ce sens qu'on obéit à ses moindres caprices, mais jamais il ne connut le charme bienfaisant des caresses maternelles. Entre son père qu'il ne voyait guère et sa mère qui le couvait furieusement, il devint un petit être sournois, volontaire, envieux, vaniteux, entêté. Peu à peu, par la puissance du contact, sa mère fit passer en lui l'âcreté de ses ambitions déçues et de ses jalouses convoitises, car elle en avait beaucoup. Elle haïssait les heureux, les bienveillants, les riches, comme s'ils lui eussent volé les éléments de leur bonté, de leur richesse ou de leur bonheur. Cette haine générale s'aiguisait en se portant sur sa belle famille. Le « millionnaire », comme elle appelait Oscar en se mangeant les lèvres, sa femme et surtout leur fille unique, qui aurait plus tard tout ce que Jules n'aurait sans doute jamais. Elle excitait contre eux son mari, homme inoffensif, incapable d'un mauvais sentiment, qui sans elle aurait regardé avec une joie bienveillante prospérer le frère, dont en sa présence il n'osait pas même prononcer le nom. Elle enseignait à Jules à les détester. Elle leur voulait du mal et enragée de ne pouvoir leur nuire, obligée encore, tant est grande la puissance de l'argent, de se faire amen quand par hasard il traversait Genève, et de sourire en voyant à côté du pauvre Jules, gauche, malingre, piteux, mal vêtu, la brillante apparition de sa nièce, fraîche et saine en de belles toilettes d'enfant riche. Et voici qu'un caprice du hasard rétablit l'équilibre. Monsieur et Madame Oscar Vallée moururent ensemble dans un accident de chemin de fer, en sorte que Madeleine, n'ayant pas de parents plus rapprochés que les Frédéric, devint leur proie, elle et sa fortune. On ne saurait imaginer un changement de destinée plus complet dans sa soudaineté. La petite âme, épanouie déjà, qui s'élançait gaiement vers la joie comme vers un soleil allumé tout exprès pour elle, fut brusquement arrêtée, écrasée, comprimée. Son soleil s'éteignit. Elle se trouva seule, pis que seule, en possession d'une force ennemie et méchante qui l'oppressa, obligée bientôt à s'en apercevoir, à reconnaître la haine sourde qu'elle inspirait, à constater les basses intrigues qui se nouèrent autour d'elle. Cette idée qu'elle était prisonnière la hanta. Prisonnière de cette femme mauvaise, qui, ne pouvant la mettre en pièces, la déchirait à coups d'ongles perfides. De ce pauvre homme docile et nul, qui exécutait sans les comprendre les consignes reçues. Du gamin sournois, auquel elle devina bientôt qu'on convoitait de la livrer un jour, avec ses biens, dont on jouissait déjà. Dessein ténébreux. Une autre personne que Madame Vallée les eût poursuivis par une diplomatie plus douce. Elle ne connaissait que la contrainte. La crainte, et l'habitude de la crainte, lui semblaient les moyens les plus sûrs. Mais la volontaire personne rencontra une résistance inattendue. Contre sa volonté, une volonté rebelle se dressa, aussi tenace, plus patiente. La partie était inégale, puisque la tante avait dans son jeu la force, l'autorité, la loi. Et la nièce le sentit bien vite. Aussi ne s'usa-t-elle point en résistance vaine. Elle se retira en elle-même, simplement, comme en un fort. Elle capitula sur les faits, sans rien donner de son âme, sans en rien laisser pénétrer. Elle fut docile et farouche, cédant toujours et ne perdant rien, renonçant à livrer aucun combat pour se conserver intacte, parlant à peine et gardant pour soi toutes ses pensées. Résignée, elle répondait « Oui, ma tante », en obéissant aux ordres injustes. Son obéissance était une révolte. À un tel jeu, la haine qui l'enveloppait aurait pu envahir son cœur. Mais, étant bonne, elle ne haïssait point. Elle se réservait. Elle devint ainsi un être compliqué, ignoré, fermé, silencieux. L'âme riche d'expansion contenue, de longues confidences qui ne s'épanchaient jamais, sympathique d'instinct à tout ce qui n'était pas son milieu ennemi, poussée vers les figures étrangères qu'elle jugeait meilleures parce qu'elle avait besoin de confiance. C'est ainsi qu'elle adora 3 ou 4 jeunes filles, ses camarades de classe, que sa tante se hâta d'éloigner. En sorte que des drames violents et muets avaient déjà remué son cœur, sans que personne en eût jamais entrevu les péripéties, ni soupçonné l'intensité. Avec les valets, 2 ou 3 familles complétaient le groupe des « gens du pays », après lequel venaient des étrangers. Le haut de la première table appartenait à la famille du révérend Watson, qui présidait, sa tête raide, glabre, grise, engoncée dans sa cravate blanche, ayant à ses côtés sa toute petite femme, pointue et revêche, et 5 grandes filles, dont les profils chevalins se ressemblaient tous, avec leurs yeux du même bleu et leurs longues dents voraces. Une Écossaise, Madame Lachlin, très belle encore sous ses cheveux gris, avait avec elle ses 2 fils, 2 jeunes gens de 14 et 16 ans, très blonds, très pâles, faibles de la poitrine, sujets à de fréquents accès de toux. À côté de ces visages d'insulaires se détachait la tête brune d'un Arménien, aux cheveux noirs, aux yeux noirs, aux sourcils épais. Il se nommait Arléguian, s'ennuyait, cherchait à se rendre agréable par 1000 petites complaisances. Le blond reprenait avec un couple allemand, en voyage de noces, qui buvait dans le même verre et se serrait les mains sous la table. La place de Sterny se trouvait marquée entre la chaise vide de Volant et Madeleine Vallée, assise à gauche de sa tante, qui la séparait de son cousin. Il fit, des yeux, le tour de la table, qu'il jugea sommairement. Quelle que fût leur race, ces gens étaient de petits bourgeois, mesquins, médiocres, probablement vulgaires. Il songea « Quelle ménagerie !» Puis, son attention se fixant sur sa voisine, il se dit que celle-ci, du moins, avait un visage humain, et se rappela les élégantes bottines qui, le matin, stationnait dans le vestibule. La jeune fille pouvait approcher de ses 20 ans. Plutôt grande, très svelte, le front bas et pur sous ses cheveux bruns, presque noirs, coiffés à la grecque, elle avait de grands yeux clairs, vite effarouché, qui ne se levait jamais sans une nuance d'inquiétude et une mobilité d'expression telle que ses traits même semblaient changer. En la regardant à la dérobée, à plusieurs reprises, Julien la trouva chaque fois différente. D'abord, elle lui parut sévère, belle, froide, éveillant l'idée d'une Diane indifférente. Puis, un éclair de vie ayant passé au fond de ses yeux, pendant une seconde, elle rayonna, aspirant au bonheur et le promettant de tout son être. Mais cet éclair s'éteignit bien vite. Elle n'eut plus qu'une figure résignée, dont les traits tombaient, un profil sans beauté de brebis patiente, tandis que son teint même, qu'un afflux de sang venait d'illuminer, se ternissait en des teintes plombeuses. Puis de nouveau, elle s'épanouit avec des carnations de belles fleurs sous la caresse du soleil. Julien choisit ce moment pour lui adresser une phrase insignifiante. Elle répondit, en le regardant bien en face, de ses yeux qui souriaient. Mais Madame Vallée la foudroya d'un coup d'œil. Le sourire cessa. Alors Julien laissa tomber la conversation et se mit à observer la tante. Elle était sèche, remuante, agitée. Elle dégageait une insupportable vulgarité. Une de ces vulgarités qui viennent de la bassesse de l'âme plus encore que de l'insuffisante éducation, et qui se manifeste par la voix, par le geste, par l'accent, par la tenue. Son visage olivâtre n'aurait point frappé par sa laideur insignifiante si ses allures ne l'eussent souligné. Elle avait une façon presque incongrue de tenir sa fourchette, de rompre son pain, de poser son poing sur la table ou d'étaler sa large main aux doigts en spatule. Bruyante, elle riait d'un gros rire de poule qui glousse, d'un rire pâteux dont elle s'emplissait la bouche et qu'elle roulait comme un gargarisme, d'un rire qui devenait vite malveillant, maussade, grognon, comme l'expression de ses yeux jaunes, perçants et vifs. Ses petits yeux, quand ils se fixaient sur Madeleine, ce qui arrivait constamment, devenaient tout à fait méchants, se chargeaient de rancune et de haine. Alors la bouche s'entr'ouvrait, prête à quelque gronderie. Mais le reproche ne partait pas, se détournait et tombait de l'autre côté, sur le long étudiant de 18 ans, à mine sournoise, efflanqué par une croissance hâtive, qui portait lunettes, tiraillé de ses doigts aux ongles douteux les poils follets d'une moustache lente à pousser, et courbait le dos. « Jules, voyons, tiens-toi droit, je t'en prie !» Ou bien « Voyons, Jules, ne prends pas autant de fraises, il faut qu'il y en ait pour tout le monde !» Sterny songea. « Voilà une jeune fille qui ne doit pas être heureuse !» Quoique peu enclin dans son état à s'occuper des autres, il entrevit une de ces existences de lutte stérile, de résignation vaine, qu'un caprice de la destinée a condamné à de continuels chagrins, non pas en leur préparant de dures épreuves, mais simplement en les faisant pousser et fleurir sur un sol impropice, comme de fines plantes qui s'étioleraient dans un mauvais terrain, étouffées par des espèces plus communes. L'arrivée de Volant, qui vint occuper la chaise vide, le tira de ses réflexions en soulevant un mouvement général. « Ah, Volant, enfin !» s'écria Madame Sauge. « À la bonne heure ! Voilà Valanche au complet !» Plantot, Sergine, Penet se levèrent pour serrer la main du nouveau venu, que Mademoiselle Le Chêne et Mademoiselle Baudoire saluèrent d'un geste presque gracieux, d'un sourire aimable. Les étrangers eux-mêmes, qui depuis leur arrivée entendaient parler de lui, s'arrêtèrent de manger pour l'examiner. Un virtuose célèbre ou un général vainqueur n'aurait pas produit une impression plus vive. De fait, Volant n'était point de ceux qu'on ne remarque pas. Grand, vigoureux, bien découplé, le teint mat, très blanc, la barbe qu'il portait entière, et les cheveux d'un noir si intense qu'ils en prenaient des reflets bleuâtres, le regard sûr, les traits fermes, d'une régularité presque classique, il plaisait d'emblée, par la vigueur saine de ses membres souples, par la bonté énergique et vaillante qu'affirmaient ses mouvements, son regard, son sourire. Il répondit, sans affectation ni gêne, aux marques de sympathie qui l'accueillaient, s'assit et, tout en dépliant sa serviette, dit à Madame Sauge, qui déjà s'informait de ses projets. « Oui, cette année, je passerai mes vacances à Valanche. Un mois, c'est bon, ça. On a beau courir les Alpes, on ne trouve rien de mieux. » « N'est-ce pas ? » dit la bonne dame enchantée. « C'est parce que je m'en suis toujours doutée, moi, que je n'ai pas même cherché et que j'y reviens depuis 50 ans. Mais ça change ici, ça change. » Jugeant l'occasion propice pour raconter l'histoire qu'elle répétait 5 ou 6 fois par saison, elle continua. « La première fois que je suis venue à Valanche, un demi-siècle, vous savez, ça compte, il n'y avait qu'une toute petite auberge pour les gens du pays, une pinte. Jamais on n'y logeait d'étrangers. Quand j'ai demandé si l'on ne pourrait pas me coucher, on m'a répondu. » Elle s'interrompit pour interpeller l'hôtesse qui aidait ses deux bonnes pour le service. « C'est votre père, Madame Allais, qui m'a répondu. Il m'a dit « On pourrait bien vous faire un lit dans la chambre à boire. » La chambre à boire était pleine de gens. « Mais tout ce monde ? » lui ai-je demandé. Alors il m'a dit, avec son bon accent du valet, « Oh bien, une fois que vous seriez couché, ils ne feraient pas attention à vous, vous ne les gêneriez pas. » Les habitués connaissaient l'anecdote. Ils n'en rirent pas moins de bon cœur. Et avec eux, toute la tablée, surtout Madame Valet, qui gloussa longuement. Par habitude d'esprit, comme par goût naturel, Volant était observateur. À peine eut-il regardé son voisin de droite que, frappé de sa physionomie inquiète, souffrante et sympathique, pressentant en lui une de ces douleurs secrètes que peut soulager le son d'une voix bienveillante, il engagea la conversation par quelques-unes des questions banales qu'autorise la familiarité de la table commune. « C'est la première fois que vous venez à Valanche, monsieur ?»« Oui, monsieur, » répondit Sterny. « C'est même la première fois que je me trouve dans un village de montagne. »« Vous êtes français, sans doute, comme moi ?»« Non, je suis suisse, mais j'habite Paris depuis longtemps et je connais à peine ma patrie. » »« Ah, vous ne connaissez pas la Suisse, et vous avez pourtant découvert ce coin perdu des Alpes. » Il m'a été indiqué l'autre jour à Interlaken par un jeune peintre qui, je crois, m'a parlé de vous, Monsieur Georges Croissy. Croissy est un de nos fidèles, vous le connaissez donc ? Très peu, je l'ai rencontré à table d'hôte. Que pouvait-il bien faire à Interlaken, mon Dieu ? Il travaillait ? Je ne crois pas, en tout cas je ne l'ai pas vu peindre. Volant s'anima. « Je suis sûr, dit-il, que ces études vous intéresseraient, pour peu que vous aimiez la peinture, car Croissy est un véritable artiste. Il a pressenti, lui premier peut-être, l'art nouveau qu'il faut créer pour rendre les paysages alpestres. Il a compris que la montagne a aussi son intimité, et que c'est cette intimité qu'il faut saisir, puisque aussi bien les grands panoramas sont inaccessibles. Il s'y applique maintenant de toute son âme. Et lui, qui a débuté par être un peintre mondain, sera peut-être bien l'initiateur véritable de la peinture alpestre, car ce qui a été fait depuis Calame, ce ne sont que des balbutiements. » Volant parlait en homme réfléchi, qui s'intéresse vivement à ce qu'il dit, l'ayant pensé, mais remarquant que le regard de Sterny, inquiet de nouveau, s'enfuyait, il changea de conversation. Vous ne pourrez manquer d'être reconnaissant à Croissy de vous avoir envoyé ici, monsieur. L'endroit est charmant. Je n'ai rencontré personne qui ne s'y soit attaché. Pas tout de suite, par exemple. Il en est comme de ces visages, qu'on trouve plus beaux à mesure qu'on les regarde davantage. Il faut pénétrer jusqu'à l'âme de ce pays un peu dur, au premier aspect, mais si bon, si beau, si tranquille. « Oh, tranquille !» s'exclama Julien. « Je n'ai pas fermé l'œil cette nuit. »« Vous êtes logé à l'hôtel ? naturellement. Dans ce cas-là, je vous comprends. Ici, voyez-vous, il faut loger chez l'habitant. Dans ces vieux chalets, il y a d'excellentes chambres. Je vous montrerai la mienne cet après-midi. Si elle vous plaît, je vous aiderai volontiers à en trouver une pareille. » Julien remercia, touché de cette obligeante familiarité qui lui faisait du bien. On se levait de table. Madame Vallée sortit en grondant son fils, tandis que Madeleine suivait à quatre pas de distance. Julien la regarda s'éloigner, d'une belle démarche ondulée et fière. Volant, qui la suivait aussi des yeux, se pencha vers lui en murmurant « Inque su patuit Dea, n'est-ce pas ?» Dès longtemps, Sterni avait oublié son peu de latin. Il cacha son embarras sous un sourire, et les deux hommes se trouvèrent ensemble, devant l'hôtel, en compagnie de Penet et de Sergine, Planteau ayant disparu. Aussitôt, la scène dont Volant venait d'être le héros recommença avec un nouveau personnel. Les montagnards endimanchés, qui stationnaient devant l'échoppe du cordonnier, le reconnurent, l'examinèrent un instant avec la prudence qu'ils mettent dans leurs regards comme dans leurs actes, et finirent par s'approcher de lui, l'un après l'autre, lent, circonspect. Ce fut César Cascaté qui commença. « Eh, bonjour, monsieur Volant, vous voilà donc au milieu de nous ?»« Comme vous voyez, César, cette année encore. » »« Alors, ça va toujours ?»« Ça va toujours, je vous remercie. » »« Et vous, qu'est-ce que vous dites de bon ?»«
Rien que de bon, monsieur Volant. »
Comme le guide saluait aussi Sterni, un autre s'avança, plus jeune de quelques années, surtout plus alerte, plus vif, avec une pointe de ruse au fond de ses yeux clairs, et portant crânement sur l'oreille un chapeau de paille rond qui ne ressemblait point au feutre mou de ses compagnons. C'était son cousin Joseph, facteur surnuméraire pendant les mois d'été, qui faisait aussi pour son propre compte des transports de personnes et de bagages. Les mêmes compliments s'échangèrent, puis Volant demanda « Et votre âne, Joseph ?»«
Je ne l'ai plus, monsieur Volant. C'est un mulet cette année. »«
Ah, diable, vous êtes dans le mouvement, vous. L'an prochain, ce sera un cheval. » Joseph cligna de l'œil.
« Oh, l'an prochain, » fit-il.
« Eh bien, l'an prochain, il faudra voir. » C'était gros d'espérance, cette perspective ouverte ainsi sur l'inconnu de l'avenir. Cependant, un troisième personnage approchait, en se dandinant un peu. Maurice Combes, le doyen des guides, le compagnon habituel de Volant, qui avait gravi avec lui tous les pics, toutes les dents, toutes les pointes, tous les sexes du voisinage. Noueux comme un vieux chêne, il avait le teint couleur d'écorce, le nez busqué, et malgré l'épaisseur de ses traits, une singulière expression de fine bonhomie. Sa barbe grisonnante frisait légèrement à la façon de celle d'un Jupiter romain. La bienvenue recommença.
« Bonjour, monsieur Volant, vous voilà donc au milieu de nous ?»«
Mais oui, mon bon Maurice. »«
Et ça va toujours ?»«
Ça va toujours. Et vous, qu'est-ce que vous dites ?»
« Rien que de bon, monsieur Volant. »«
Il y a donc du nouveau par ici ?»
Maurice hésita.
« Un peu, » fit-il enfin.
« Quoi donc ?
C'est surtout l'an prochain qu'il y en aura. »«
Qu'est-ce qu'il y aura ?»«
Le conseil a décidé d'abattre le lavoir. »«
Pourquoi ?»«
Pour faire une fontaine en pierre. »
« Bien sûr, » dit Joseph Cascaté. « C'est trop vieux tout ça. Ça n'est pas beau. » Il faut arranger le village, n'est-ce pas, puisque les étrangers commencent à venir.
« Vous allez faire de belles choses, » maugréa Volant.
« Et puis, » reprit Maurice, « il y a les Clévoses qui veulent abattre leur chalet. »
Il se retournait à demi vers le beau chalet voisin de la maison de commune, dont le vieux bois bruni semblait braver les siècles.
« Mais il est excellent, leur chalet !» s'écria Volant.
« Est-ce qu'ils sont fous ?»
César intervint.
« C'est vrai qu'il est encore solide, » dit-il.
« Seulement, » commença Maurice.
Il s'arrêta comme au bord d'un précipice.
Seulement ? Interrogea Volant. Les trois montagnards se consultèrent des yeux, puis Joseph, le plus hardi, expliqua.
Ils veulent faire un hôtel à la place. Voilà.
Volant, d'abord stupéfait, éclata de rire.
Vieille Suisse aubergiste, s'écria-t-il. Ça, c'est trop drôle.
En s'adressant à Sterny, qui suivait l'entretien sans tout comprendre, imaginez-vous que le père Clévoz est un vieux de la vieille, un vrai valaisan des temps anciens. On l'appelle Vieille Suisse parce qu'il est le dernier du village qui ait pris part aux guerres civiles d'autrefois. Regardez-le, là, vers l'église. Son geste montrait un grand vieillard, le seul qui conserva le costume national. Habit brun à gros boutons jaunes, culotte noire, bas blancs, souliers à boucles. Tout raide, debout, campé sur ses fortes jambes, il fumait sa pipe, les bras croisés, au milieu d'un groupe. Il portait en collier sa barbe blanche, dure et drue, qui dégageait son menton carré, proéminent, terriblement volontaire, et sa tête semblait sculptée dans une racine d'arbre par un artiste naïf et puissant.
« Vous représentez-vous ce gaillard-là tenant un hôtel ?» continua Volant.
« Ma parole, ils perdent tous la tête depuis qu'ils ont vu des Anglais par ici. Pourtant, celui-là l'avait solide. »
« Bien sûr que ça n'est pas lui qui tiendra l'hôtel, » dit Maurice avec un peu d'humeur. « Et ça n'est pas lui non plus qui en a eu l'idée. »
Joseph et César complétèrent ensemble.
« C'est son fils.
C'est Gaspard. » À ce moment, Nantelme Testaz, qui survenait, interrompit un instant la conversation, pour commencer comme les autres. «
Bonjour, monsieur Volant, vous voilà donc au milieu de nous ?»
Intéressé par les nouvelles qu'il venait d'apprendre, Firmin abrégea les compliments.
« Oui, Nantel, et j'en apprends de belles. Voyons, vous qui avez du bon sens, qu'est-ce que vous en pensez ?»
Nantel me comprit tout de suite. Pourtant, pour se donner le temps de réfléchir, il demanda
« De quoi, monsieur Volant ?»«
Eh, parbleu, de tout ce qui se passe ici, vieille Suisse qui se fait aubergiste. »
Vous savez déjà ça, monsieur Volant ?
Je viens de l'apprendre.
Nantel me poussa un gros soupir.
Ça n'est pas tout, fit-il.
Allons bon, qu'est-ce qu'il y a encore ?
Il y a que monsieur de Rarogne est ici.
C'est vrai ?
Il est arrivé hier soir, monsieur Volant.
Par le même train que moi, dit Julien.
Nantel m'ajouta. C'est la troisième fois qu'il vient depuis le printemps.
Alors, dit Volant, c'est la fin de tout.
Et se tournant vers Sterny,
vous connaissez déjà Rarogne, vous ? Sa gloire aurait-elle rayonné jusqu'à Paris ?
Je l'ai vu, dit Julien, mais je ne sais rien de lui.
Eh bien, c'est le grand homme du Valais.
Son nom, vous l'avez peut-être remarqué sur une petite gare des environs de Brigue. Son nom est illustre dans l'histoire du pays. Sa famille a fourni des comtes évêques à Sion, des capitaines généraux du Valais, des héros et des bandits qui ont fait couler bien du sang dans les eaux du Rhône. Si vous passez un jour à Sion, allez voir au musée de Valère le bouclier de ses ancêtres. C'était des tyrannos comme ceux d'Italie, vaillants, cruels, pillards, retors, ambitieux. À la fin, ils se sont effondrés sous les coups des paysans, comme toute la noblesse féodale de la région. Car ce peuple en a fait des révolutions. Quand un gentilhomme avait trop abusé de la patience populaire, on levait la Matz contre lui. Une tête de bois, sculptée par des mains grossières, couronnée d'épines, tachée de sang. Tragique symbole des souffrances d'en bas. On la promenait de village en village. On l'interrogeait dans les réunions. « Matz, qui t'a tourmenté et de qui te plains-tu ? Est-ce de l'évêque de Sion, des sires de la Tour ou de ceux de Rarogne ?» Quand tombait le nom juste, la Matz inclinait sa lourde tête blessée. Alors, chaque conjuré y plantait un clou. C'était leur pacte, et ils marchaient contre les châteaux, qui finirent tous par tomber devant la Matz. Ils ont fait de belles défenses, ces ours, ces loups, ces aigles, ces sangliers. Ils se sont battus en héros dans leurs airs et dans leurs bauges. Mais les autres avaient le nombre, la colère, la patience, une triple force qui triomphe toujours. Voilà quelques 3 siècles que le nom de Rarogne avait disparu de l'histoire. Antoine de Rarogne, que vous avez vu, est en train de lui rendre un nouvel éclat. Descend-il des anciens barons? Je n'en sais rien. Son père tenait une infime auberge dans le Val d'Anniviers. Lui, il est un créateur d'œuvres du diable. C'est lui qui a transformé l'Estral, d'un trou comme Valanche, en la station célèbre que vous connaissez. Il fait surgir du sol les grands hôtels, il monnaie les paysages, il met les glaciers en coupe réglée. Il lui suffit de regarder une montagne pour que des ponts se jettent sur les abîmes, pour que des tunnels s'ouvrent sous les rochers, pour que des chemins de fer traversent ces ponts et ces tunnels. Si Rarogne est ici, malheur au vieux Valanche. C'est lui qui leur a tourné la tête à tous. Faut-il que le tentateur soit habile pour avoir ébloui jusqu'à ce brave Clévose que vous voyez fumer sa pipe et qui roule, Dieu sait quel projet de lucre, dans sa vieille tête honnête? Volant parlait avec émotion, en homme qui sent approcher la fin d'un monde aimé. Les paysans l'écoutaient sans rien dire. Après un silence, Nantelme commença. Quant à Clévose, il s'interrompit, selon leur instinctif procédé de réticence. Pour quant à Clévose? Demanda Volant. Nantelme se dandina sur ses 2 jambes, ôta son chapeau, le remit, et se décida enfin à s'expliquer. Pour quant au père Clévose, monsieur Volant, voulez-vous que je vous dise? Eh bien, je crois qu'il a son idée. Ce n'est pas lui qui veut faire un hôtel, n'est-ce pas? C'est Gaspard, parce que Gaspard est jeune et qu'il a de l'ambition. Alors, vieille Suisse, qui est un malin, fait semblant de consentir. Savez-vous pourquoi? Pour vendre bien cher son chalet à Rarogne. Les autres approuvèrent de la tête. Volant dit « Voilà déjà les combinaisons qui vont leur train. » « Il y en a bien d'autres, allez, monsieur Volant, » dit Joseph. « Je m'en doute. Si monsieur Rarogne vient par ici, c'est pour faire un hôtel, n'est-ce pas ?»« Probablement. » »« Alors il faudra voir l'emplacement qu'il choisira. Moi, je sais qu'il est en pourparlers avec Frédéric Élie pour son champ qui est sur la route vers la croisée des Traversies. Mais il y en a d'autres qui voudraient bien avoir affaire à lui. » Et si les Clévoses se figurent qu'ils l'effraieront avec leur projet, moi, je dis qu'ils se mettent le doigt dans l'œil. Est-ce qu'ils pourraient lui faire concurrence? Ce qu'il va construire, ça n'est pas une bicoque comme le chamois, c'est un véritable hôtel, comme il y en a à Montreux, à Zermatt, à l'Estral, dans tous les beaux endroits. Enfin, un hôtel avec 200 chambres, qui sera la richesse du pays. » Joseph aussi s'exaltait en parlant, les yeux brillants, le verbe facile. Volant dit avec ironie, « Billard, ascenseur, piano, lumière électrique. » « Oui, tout ce qu'il faut, » affirma catégoriquement Joseph. Nantelme hasarda d'un air de doute, « Ça sera bien beau. Pourtant, nous étions heureux comme nous sommes. »« Parle pour toi, » riposta Joseph. « Toi, tu as fait ta pelote en Amérique, tu n'as plus qu'à vivre en rentier. Mais nous qui sommes pauvres, c'est autre chose. » « Nos pères ont bien vécu, » objecta Nantelme, dont c'était l'argument favori. « C'est-à-dire qu'ils ont travaillé comme des ânes pour nous laisser la misère. Ils ont apporté sur leur dos la terre qui fait nos champs dans les rochers. Ils se sont tués en voyage le long des chemins. C'est qu'ils ne savaient pas. Ah, s'ils avaient su. Vois-tu ceux de Zermatt, Nantelme, ceux de l'Estral, ils sont tous à leur aise à présent. Ils travaillent un peu en été quand les étrangers sont là. Ça leur rapporte plus qu'à nous de nous éreinter toute l'année durant. » Avec un geste de 12 entêtements, Nantelme riposta. « Moi, je trouve que ça valait mieux comme c'était. N'est-ce pas, monsieur Volant ? Firmin, qui tout à l'heure prenait position avec tant de netteté, se sentait ébranlé. Aussi fut-ce avec moins de conviction qu'il répondit « Certainement, Nantelme. Pourtant, c'est bien compliqué. »
Oh oui, c'était compliqué. Il fallait penser à la fois à l'énorme travail accumulé dans ces champs avares, à la peine séculaire des générations qui s'acharnent à multiplier dans cette vallée où le hasard des migrations primitives a jadis semé quelques familles, aux besoins qui augmentent, aux changements qui emportent le monde, aux gains faciles des hommes de la plaine. Volant songeait à tous ces éléments complexes qui devaient entrer en compte, et son front se barrait d'un pli d'inquiétude. « Enfin, conclut-il, le temps arrangera tout ça. » Et il emmena Sterny par une des étroites ruelles, au bout du village, dans le chalet où il logeait. Depuis bien des années, Volant descendait chez Maurice Combes, qui vivait seul avec sa femme, pendant que leurs trois fils couraient le monde. On lui cédait la meilleure pièce, la chambre à côté de la cuisine, grande, aérée, propre, avec des rideaux blancs à ses petites fenêtres, son poêle à gradin daté de 1769, un lit monumental, la vieille armoire en noyer verni où s'entasse le linge que la femme tisse en hiver et conserve pour des occasions qui ne se présentent jamais. Sterny s'amusa des naïfs ornements qui décoraient les murailles, quelques images de piété rangées en belle symétrie autour du crucifix et du bénitier où trempait la branche de buis, une estampe représentant Bonaparte au Saint-Bernard, des photographies de famille rapportées des foires ou des fêtes, et surtout un carton vitré renfermant des poissons rouges, des cygnes, des canards, une chaloupe aimantée. Jouet d'enfant, envoyé jadis de la ville à l'un des grands gaillards, maintenant dispersé. Humble jouet que la mère avait gardé comme un objet précieux. « En souvenir, » disait-elle. En réalité, par esprit de conservation, parce qu'on a si peu de choses là-haut, qu'il faut bien garder celles qu'on a. « Mais c'est charmant !» s'écria Sterny, enchanté de cet intérieur confortable dans sa rusticité. « Cela vaut bien mieux que ma chambre d'hôtel. Je ne demande qu'à être logé comme vous. » « Venez donc, je vais vous trouver votre affaire chez les plus braves gens du village. » Volant le conduisit tout droit dans un autre chalet, plus près du centre, où ils furent accueillis par un tout petit homme au ventre énorme, au triple menton, au souffle court, et par une longue femme sèche qui marchait en boitillant et en sautillant, comme si trop de voyages trop lourds avaient faussé quelques ressorts de son échine. « Eh, monsieur Volant, c'est vous ? » s'écria l'homme. « Depuis quand donc êtes-vous au milieu de nous ?» Aussitôt la femme ajouta « On est tout heureux de vous revoir encore une fois, monsieur Volant. Je dis encore une fois, parce qu'à notre âge, vous savez, on n'est plus sûr de rien. »« Bah !» répondit gaiement Volant. « Vous savez qu'ici l'on devient très vieux. J'espère bien vous retrouver tous les ans, aussi longtemps que je reviendrai à Valanche. En attendant, madame Jumieux, je vous amène un locataire. » La vieille dévisagea Sterny. « Ce monsieur-là, dit-elle, jamais il ne se contentera de notre chambre, car ça n'est pas beau chez nous, monsieur. Il y a tout ce qu'il faut, c'est vrai, mais rien de plus. Enfin, voyez tout de même. » Moins Bonaparte et les poissons aimantés que remplaçaient des vues de Chamonix, c'était la même installation, avec en plus un vieux secrétaire aux serrures curieusement travaillées. « Que faudrait-il de plus ? » déclara Julien. En s'approchant des étroites fenêtres que longeait à l'extérieur la galerie ajourée, il ajouta « Et la vue est magnifique !» En effet, la déchirure des gorges de la Tause coupait brusquement les prés verts qui filaient vers les traversies, tandis que derrière se dressait la paroi boisée de la Madze, ensoleillée et pourtant sombre. En contemplant les trois têtes rondes de la montagne, Julien ne put s'empêcher de songer à l'histoire que Volant contait tout à l'heure,
et aux propos qu'il venait d'entendre. Cette Matz-là, qui survivait à l'antique massue, demeurait noire et triste, comme si elle eût voulu représenter elle aussi les souffrances du pauvre monde. Car si les barons rapaces sont tombés, le besoin subsiste toujours. On ne peut pas s'insurger contre lui. Tout ce qu'on peut faire, c'est de le combattre par mille moyens ingénieux. Pourquoi donc interdire aux travailleurs de choisir les moins difficiles? Ce ne fut pas sans peine qu'on se mit d'accord sur le prix de la chambre, car la vieille répétait toujours « Demandez à monsieur Volant, il sait bien ce que ça vaut, lui !» Il fallut que Volant fixât lui-même le chiffre de 20 sous par jour. Quant au mari, l'on était à peine d'accord qu'il s'écria « Maintenant, allons boire un verre !» Ayant conduit ses visiteurs devant la maison, il les fit asseoir autour d'une table, sous laquelle restait au frais, enveloppé de fougères humides, un arrosoir rempli de vin blanc, la ration de la journée. Comme ils s'attablaient, le curé qui s'engageait dans la ruelle s'arrêta devant eux. C'était un montagnard comme les autres, de la même race, mais dont les allures avaient plus de souplesse, les yeux pensifs plus d'intelligence. Il portait en sautoir le rocher blanc des chanoines de Saint-Maurice. Ses cheveux noirs bouclaient légèrement sur son cou, sa soutane moulait comme une armure, sa taille vigoureuse. « Toujours votre verre en main, jumieux !» s'écria-t-il. « Je vous ai pourtant dit, quand vous m'avez fait appeler pour votre dernière crise, qu'il fallait absolument vous faire une raison. » Jumieux baissa la tête. « Mais, monsieur le curé, dit-il, c'est ces messieurs qui sont venus pour la chambre. Alors, vous comprenez, il faut bien leur offrir un verre. » Le curé ne se laissa pas prendre au subterfuge. « Oui, oui, vous trouvez toujours des prétextes. Ce n'est pas pour monsieur Volant que vous avez rempli votre arrosoir, n'est-ce pas ? Enfin, ça vous regarde. Vous êtes en âge de savoir vous conduire. Mais vous verrez que ça vous jouera un mauvais tour, une fois ou l'autre, votre vin blanc. » Quand la soutane eut disparu au bout de la ruelle, Jumieux, un peu penaud, se remit à secouer la tête, comme s'il pesait une idée très lourde, et finit par déclarer sentencieusement « Monsieur le curé est un habile homme. Il raccommode les jambes comme un rebouteux. Quand on a mal au ventre, il vous donne des poudres qui vous guérissent tout de suite, comme il m'en a donné cet hiver. Il a aussi guéri la femme de Frédéric Élie, qui avait les yeux rouges qui pleuraient toujours. Mais ça, c'est du vin naturel qui vient de ma vigne. Jamais il ne me fera croire que ça peut faire du mal à un chrétien. » Là-dessus, il prit le grand verre à absinthe, plein jusqu'au bord, auquel il n'avait point encore touché, et le choqua contre ceux de ses visiteurs. « À votre santé, messieurs, dit-il. Et d'un trait, il vida son verre. C'est un noble vin que le vin du Valais. Ses vignes fleurissent au bas des côtes, qui montent vers les glaciers, le long du fleuve que grossissent les avalanches, autour des vieux châteaux, dont les ruines racontent tant d'antiques batailles, sur un sol engraissé d'un sang versé à large flot dans des luttes épiques. Leurs grappes vertes se sont dorées au feu d'un soleil amoureux de la belle vallée, chaud comme le soleil du midi. Les mains joyeuses des montagnards, descendus pour la vendange, les ont coupées dans la gaieté de la récolte enfin certaine, dans l'insouciance des dangers évités, du gel tardif qui flétrit les jeunes pousses, de la grêle qu'apportent les nuages blancs amassés autour des pics prochains. Elles se sont tordues dans les pressoirs, sous de fortes poussées. Leur jus épais a frétillé dans les vastes foudres, sous l'action du ferment. Puis il a reposé le temps nécessaire dans les bons tonneaux de mélèze au fond des caves froides. Le voici maintenant, clair comme la pure eau des sources, blond comme les seigles, ardent comme le soleil dont il aspirait les rayons, généreux comme le sang répandu dans les anciens combats. Le voici prêt à livrer son arôme subtil, comme celui des fleurs, enivrant comme un chant joyeux. Le voici prêt à couler dans les verres, où chacune de ses gouttes se change en étoile, pour délasser les membres rompus par la fatigue des rudes journées, pour égayer les cœurs aux jours de fête. Mûris par le travail des braves gens que halent les mêmes rayons, que rafraîchissent les mêmes pluies, qui vivent du même air sous le même ciel, soignés dans les caves de leur chalet, c'est pour eux seuls qu'il a sa belle couleur de blé mûr, son odeur de bouquet, sa saveur et sa flamme. Transporté loin de leur montagne, il perd son goût et son parfum, comme s'il mourait de nostalgie. Aussi, les Valaisans sont-ils bien obligés de le garder pour eux et d'en boire tant qu'emportent leurs coteaux, tant qu'en mûrit leur soleil. Bien que le vin fût du meilleur, Sterny dut s'y reprendre à plusieurs fois pour vider son grand verre. Le père Jumieux, tout en blâmant de l'œil sa dégustation trop lente, reprit son thème en le variant. « Les médecins disent comme le curé, que ça fait du mal. Peu, les médecins, qu'est-ce qu'ils en savent? Moi, quand je ne bois pas, je suis tout chose, et les remèdes n'y feraient rien. Tandis que ça, à la bonne heure. Et puis, on sait au moins d'où ça vient. Ce n'est pas des pharmaciens qui le fabriquent avec des poudres. C'est le bon Dieu qui le fait croître avec le soleil. Est-ce que le bon Dieu peut faire quelque chose de mauvais? Dites. Alors, qu'est-ce qu'il nous chante, le curé ?» Convaincu par sa démonstration, il reprit son arrosoir. « Encore un verre, messieurs, n'est-ce pas ?» Sterny fit un geste effaré. Voland refusa, en remerciant. Jumieux insista. « Une petite goutte !»« Non, non, sans compliment. »« Alors, c'est que vous ne le trouvez pas bon. »« Il est excellent, au contraire, mais vos verres sont énormes. Une autre fois, avec plaisir. » Jumieux repoussa son arrosoir d'un air de regret, tandis que les deux nouveaux amis se séparaient. Sterny, alourdi par le vin, s'en fut donner à l'hôtel l'ordre de déménager ses bagages, revint s'installer dans sa chambre et finit par s'étendre sur son grand lit. Il s'y trouva très bien. Il éprouvait une étrange impression à se sentir vivre dans cet humble logis dont les moindres détails portaient une marque tellement étrangère, où des générations de simples gens avaient passé. Un peu de la paix qu'ils avaient laissée là se répandait en lui. Il jouit de ne penser à rien, dans le délicieux silence qui l'enveloppait, comme une douce ouate enveloppe un membre blessé. Bientôt, une sorte de torpeur reposante l'envahit, et il la prolongea le plus qu'il put. C'était presque du sommeil, c'était en tout cas de l'oubli. Quand il revint à l'hôtel, on était à table depuis un moment déjà. Il remarqua qu'on avait déplacé sa jolie voisine, assise maintenant entre la tante et le cousin. « Il faudrait apprivoiser le dragon, » songeait-il, comme si cette légère contrariété suffisait à réveiller sa curiosité de la femme. Et à tout hasard, il adressa quelques phrases aimables à la grosse dame, qui lui répondit en gloussant. Le repas lui parut maussade. Comme il se retrouvait sur la place avec Voland, l'alpiniste lui proposa une courte promenade du soir. Ils prirent un sentier qui file à travers les champs dans la direction de la Tause et se trouvèrent, après quelques instants de marche, sur une espèce de promontoire rocheux, jeté dans le vide de la vallée. De là, il dominait un immense horizon. D'énormes tranches de montagnes, en plans superposés, dévalent vers le Rhône, dont l'eau grisâtre coule infatigablement dans le lit qu'elle s'est creusé. Aussi loin que les yeux peuvent voir, elles dressent leurs pics, découpent leurs arêtes, étalent leurs glaciers, sous les jeux du soleil mourant. Déjà des teintes prestigieuses couraient sur leurs sommets, tandis que leurs flancs se noyaient d'ombre. Voland en nomma quelques-unes. Cette pointe irrégulière, ce cône hardi, qui semble poser sur le sommet comme une colonne tronquée, c'est la pierre à voir. Ces glaciers à côté, étendus comme un grand suaire, ce sont ceux du Montfort. Voici le pleureur, cette haute paroi toute noire, dressée à pic, inexorable et désolée. Et puis la ruinette, avec ses stries de neige qui descendent le long de son arête. Je n'ai pas besoin de vous nommer le grand Combin, là, dans le fond, solitaire et fier de son immensité. À mesure que la lumière rose se rétrécissait sur toutes ses cimes, les glaciers prenaient des teintes livides qui devinrent indiciblement mornes et tristes quand le soleil eut disparu. On eût dit d'énormes linceuls, étendus là pour recevoir des astres morts. Les montagnes aussi semblaient mortes. Le ciel pâle était leur suaire, prêt à se fermer sur elles. Dans la nuit fraîche, où couraient des frissons, la mort s'épandait ainsi, infiniment belle, sereine infiniment. Un bruit de pas tira les deux amis de leur contemplation muette. C'était la famille Vallée. Madeleine s'éloigna de sa tante, qui soufflait fort, et de son cousin, dont le corps trop long se cassait en deux morceaux. Ils admirèrent un moment sa gracieuse silhouette, immobile, détachée, en vigueur sur le fond obscur du paysage, et reprirent, à petits pas, le chemin du village. « Cette jeune fille est extrêmement belle, » dit Volant. Sterny répondit avec une affectation inconsciente de froideur. « Oui, c'est vrai. » Après un silence, Volant reprit « Elle a l'air malheureux. » Julien ne releva pas cette réflexion qu'il avait déjà faite pour son propre compte. Sur la place, cependant, plus nombreux que la veille, les hommes discutaient l'événement du jour, la visite de Rarogne, et pesaient ses conséquences. Tout le village était là. Les vieux, les jeunes, les riches, ceux qui possèdent de beaux terrains à bâtir, et les pauvres, qui n'ont que des champs d'orge ou de pommes de terre, pas beaucoup plus grands que des serviettes. Les conservateurs, qu'inquiète le moindre changement des choses, et les audacieux qui veulent tout transformer. Des mirages se dressaient au bout de leur horizon si borné. Leurs propos créaient un nouveau Valanche. Les humbles chalets noircis, les racards où le foin s'entasse, établis sur leurs pilotis comme des habitations lacustres, disparaissaient pour faire place à de belles maisons blanches, à de vastes hôtels, à tous les outils de cette industrie des étrangers qui fabrique des millionnaires. Plus excités que les autres, Gaspard Clévoz et Joseph Cascaté, les beaux parleurs, bouleversaient le village, remaniaient la contrée, construisaient des rues, évoquaient la vision d'un chemin de fer traversant la vallée. Ils parlaient si bien, ils étaient si sûrs de leur affaire qu'on grognait de plaisir à les entendre, comme si l'on voyait pour de bon toutes les merveilles qu'ils décrivaient. Tellement que le président Combes, un homme intelligent, mais qui ne savait pas parler aussi bien qu'eux, ne trouva qu'une exclamation pour traduire son ravissement. « Quand on verra passer par là ces chemins de fer, » s'écria-t-il en regardant vers l'avenir, « et qu'on entendra siffler ces locomotives, hé 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 !» Presque seul, Nantel me tâcha de nager contre le courant. « Moi, » essaya-t-il d'expliquer, « je crois que notre contrée n'est pas faite pour ça. Il y a déjà Zermatt, il y a l'Ouèche, il y a l'Estral, il y a bien assez de beaux endroits dans le Valais. Ici, nous sommes comme qui dirait une famille. On s'en est toujours trouvé bien. Il faut rester comme nous sommes. » Mais Nantel me passait pour un rêveur, qu'on écoutait guère. D'ailleurs, c'était un mât zéro, mâchuré. Son père connaissait les plantes, son grand-père maniait la baguette de coudrier, à l'aide de laquelle il avait découvert des sources et des carrières d'ardoises. Et si l'on remontait plus haut, il y avait dans sa famille une sinistre histoire de sorcière, brûlée pour avoir bouleversé le pays par ses maléfices. Sans doute on ne croit plus guère à ces vieilles histoires. Pourtant il en reste quelque chose, et c'est peut-être bien à cause de son aïeul que Nantel m'avait essayé de s'expatrier. Dans l'affaire en question, pas un jeune ne pensait comme lui. Même parmi les vieux, la plupart le désapprouvaient. Sauf peut-être Balthazar Prélaz, le vieux braconnier borgne. Une espèce de coureur de bois qui ne comprenait rien à la vie, un joyeux compère, conteur d'histoires, ami du bon vin, mais incapable de prendre les choses par le côté sérieux. Ce soir-là, contre toute attente, vieille Suisse lui prêta l'appui inattendu de son autorité. Lui qui parlait si peu, il leva l'index au milieu des murmures que soulevaient les paroles de Nantelme, secoua de haut en bas sa tête blanche et prononça d'un ton d'oracle « Nous savons bien ce que nous avons. Nous ne savons pas ce que nous aurons quand tout sera changé par ici. » Gaspard serra les lèvres sans oser rien répondre, car s'il tenait tête à son père, dans leur vieux chalet où ils consacraient leur soirée à discuter la question, il n'aurait point osé le contredire devant le monde. Et la réserve inattendue du père Clévose refroidit les plus ardents. Il passait pour un malin qui voyait de loin venir les choses. Beaucoup se promettaient de régler leur conduite sur la sienne et pensaient « Voyons voir ce que fera vieille Suisse avant de prendre un parti. » En attendant, ses hésitants conclurent qu'il n'était pas encore décidé à démolir son chalet, malgré les bruits qui couraient. L'un d'entre eux déclara « En tout cas, il ne faut pas aller trop vite. » Et ce fut la morale de la journée.